son pied à terre. Elle dit, là, chérie, elle dit, dans 2 semaines, c'est ma fête. Puis elle dit, je te laisse prendre la décision que tu veux, mais elle dit, tout ce que je te demande, c'est de m'acheter quelque chose qui passe de 0 à 160 en moins de 10 secondes. À part ça, je te laisse carte blanche. Mais n'oublie pas, ça doit passer de 0 à 160 en moins de 10 secondes. Le mari est un petit peu mal pris de ça. Puis, donc, les 2 semaines ont passé, et le matin de son anniversaire, l'épouse est contente, s'en va voir dans le garage. Leur vieille voiture est encore là. Oh non! Fait qu'elle ferme ça, choquée. Là, elle décide de s'en va dans la salle de bain, se rafraîchir un peu. Elle trouve un cadeau tout bien emballé sur la vanité de la salle de bain. Fait qu'il y avait un petit mot qui était dessus, c'était écrit « Voici quelque chose qui passe de 0 à 160 en moins de 2 secondes. » Devinez ce qu'il y avait dans son cadeau. Hein? Oh, une balance. Hey, son mari avait trouvé le moyen de dépasser toutes ses attentes. Imaginez comment elle devait être heureuse de son cadeau. Non, hein? Elle devait être déçue par à peu près, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle s'attendait d'avoir ce matin-là. Donc, ce matin, je voulais aborder le sujet de la déception. Parce que dans un couple, comme on l'a dit, c'est quelque chose qu'on va avoir à vivre régulièrement. D'être déçu de l'autre. On a des attentes qui ne seront pas atteintes et on va être déçu. Mais ce n'est pas juste pour les couples. Ça va être avec nos voisins, nos confrères de travail, un peu partout. Donc, personne ne va être laissé pour compte. Peu importe ta situation, tu es marié, tu es célibataire, tu es un employeur, un employé, peu importe. On va toujours, dans toutes les situations où on est, vivre des déceptions. Et je voulais aborder ce sujet-là. Et je me suis demandé, est-ce qu'on a un texte dans les Écritures qui nous parle des déceptions, qui nous enseigne sur les déceptions? En connaissez-vous un, vous autres? Moi, je n'en ai pas, je n'ai pas allumé, peut-être qu'il y en a un que je n'ai pas pensé. OK, voilà, ça, c'est un, oui, j'en voulais en venir là, parce qu'on n'a pas d'enseignement, à ma connaissance, qui nous dit comment réagir. À ce moment-là, tu es obligé d'aller dans un récit historique, une histoire, où des personnes auraient été déçues. Toi, tu as vu le verset au début, hein? Tu as triché, là. Mais je me suis dit, il devrait y avoir une histoire dans les Écritures où on verrait quelqu'un qui a été déçu et on pourrait apprendre un petit peu ensemble à travers ça. Et effectivement, c'est celui qui m'est revenu, c'est le texte des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Comment? Job, certainement, une déception, effectivement. Ça a été un petit peu long à lire, par exemple. Je pense qu'il y a 31 chapitres dans Job. Donc, mais non, effectivement, ça rappelle un autre exemple. Mais on va regarder celui des disciples d'Emmaüs. Pouvez-vous tourner avec moi dans Luc 24? On va le lire ensemble. On va lire les versets 13 à 27 dans Luc 24. Vous êtes là, Luc 24, verset 13. Nous dit, « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » Ça, c'est à peu près 11 kilomètres. « Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » Donc, Jésus est mort. Ça fait déjà 3 jours. On a eu le récit juste avant des femmes qui sont allées au tombeau, que le tombeau était vide. Il dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » Donc, il y avait toute une attitude, là, il voyait qu'il était vraiment triste présentement. Donc, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-là? Si, quoi, leur dit-il? » Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Alors nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Oh, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, qu'il entra dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc, on est en présence de deux personnes qui sont vraiment déçues dans leurs attentes, et pas déçus de n'importe qui. Ils sont déçus de Jésus. Mais est-ce que Dieu est en faute là-dedans? Est-ce que Jésus était en faute? Bien sûr que non. Donc, quelle fut la cause exacte de leur déception? Notre texte ce matin nous présente trois causes qui, je le crois, ont de bonnes chances à se retrouver aussi dans nos situations personnelles, dans ce qu'on vit, dans le cœur humain. C'est un petit peu ce qu'on vit, on va regarder ça ensemble ce matin. Mais avant de commencer, on va juste demander au Seigneur de nous éclairer. Seigneur, merci pour un récit comme celui-là. Seigneur, lorsque tu es ressuscité, on voit l'attitude de ces deux disciples. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse en tirer des choses à mettre en pratique aujourd'hui dans notre vie. On sait que ce n'est pas un texte de doctrine, mais Seigneur, on a à apprendre par rapport à nos cœurs personnels. Et ma prière, c'est que tu utilises ma bouche, mais que tu prépares nos cœurs à chacun d'entre nous, et moi le premier, à recevoir ce que tu as à nous dire. C'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Donc, c'est notre texte. La première cause de leur déception, c'était leurs attentes erronées. On voit ça au verset 21. On va juste le relire. Le disciple dit, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Donc, les attentes des disciples ici étaient que Jésus délivrerait Israël. Mais là, maintenant, ils se disent qu'il est trop tard. Ça fait trois jours que Jésus est mort. Il n'y a plus aucun espoir qu'il puisse accomplir cette mission de délivrer Israël. Et voilà. Est-ce que cette attente-là était réaliste? À quoi est-ce qu'ils s'attendaient exactement quand dans leur tête, ils disaient qu'il était pour délivrer Israël? Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour eux autres? Bien, premièrement, là, quand on regarde dans l'histoire, la plupart des Juifs croyaient que quand le Messie viendrait, ce serait un puissant libérateur qui viendrait les délivrer de leurs oppresseurs, les Romains, à cette époque-là. C'était la croyance qu'ils avaient et qui viendrait établir son royaume sur la terre, qui est un royaume politique. Mais sur quelle base est-ce qu'ils pouvaient fonder ça? Je voulais juste faire un petit passage rapide sur quelques textes, entre autres le psaume 72, qui parlait justement du quand le Messie viendrait, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Donc, à l'interprétation d'un texte comme celui-là, les Juifs avaient compris que c'était une délivrance des oppresseurs physiques que le Messie viendrait accomplir. Il les affranchira de l'oppresseur, de celui qui leur fait violence, finalement. Donc, ils s'attendaient que ce serait vraiment dans le sens physique que ça arriverait. Pourtant, lorsque l'ange est apparu à Joseph, il expliquait la mission de Jésus, il avait été clair. C'est lui qui sauvera son peuple, dans Matthieu 1, 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. pas des oppresseurs romains, pas de quelque autre oppresseur qu'Israël a eu, mais les sauver de ses péchés. C'était donc clairement pas un oppresseur physique, mais un oppresseur spirituel, qui était le péché qui les rendait oppressés, qui les rendait esclaves, assujettis. Et ça, c'était pas nouveau. L'ange l'avait annoncé, mais quand on étudie bien les textes qui parlent du Messie, entre autres, le psaume 130, c'était déjà clair. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donc, si le principe était déjà là. Mais c'est sûr que des fois, quand on interprète des passages, on prend ceux qu'on préfère. Hein? On s'arrête à ceux qu'on préfère et on oublie des passages comme celui-là qui expliquait de quel oppresseur il s'agissait. Donc, les disciples ne font pas exception. Ils ont un petit peu la même croyance que tous les Israélites de l'époque et croyaient que c'était une délivrance des Romains qui était pour opérer et d'avoir son royaume ici-bas. Le royaume que Jésus-Christ, pourtant, était venu établir, c'était son Église ici. C'était spirituel et non pas physique. Ce n'était pas un royaume ou une puissance politique qui venait établir, mais dans le domaine spirituel. C'est d'ailleurs ce que les anges avaient annoncé dans notre texte, mais juste un petit peu avant, les versets 6 et 7, hein, quand il dit il n'est point ici, les anges parlent aux femmes, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé hein, quand il disait il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Donc, les anges avaient tout annoncé ce qui devait arriver. Donc, c'était normal, c'était la façon que Jésus allait accomplir sa mission. Mais eux étaient encore restés accrochés à la croyance judaïque de la situation. Jésus, on le voit dans son ministère, n'a jamais voulu alimenter une telle erreur, une telle façon de penser. Et même lorsque, comme dans un texte de celui de Jean 15, ils ont voulu le faire roi. Okay, après l'histoire de la multiplication des pains, là, ils ont voulu le faire roi, puis Jésus s'est simplement retiré. Jésus, c'est toujours, il a toujours fui devant ces situations où il aurait été couronné, il aurait été fait un chef ici-bas. Donc, c'était clairement pas la direction que Jésus avait pris. Jésus avait clairement annoncé tout ce qui se passerait. Et d'ailleurs, il avait tellement bien annoncé que même les Juifs qui lui en voulaient avaient bien compris ce qu'il avait dit. Vous vous rappelez quand il était dans le tombeau, qu'est-ce que les chefs juifs avaient fait? Ils avaient demandé qu'ils placent des gardes devant la tombe parce qu'ils disent, on se rappelle hein, qu'il avait dit que cet imposteur avait dit quand il était vivant, « Après trois jours, je ressusciterai. » Donc même ceux qui étaient mal intentionnés avaient compris les enseignements de Jésus là-dessus. Alors, comment ça se fait que ces deux disciples-là n'avaient pas compris ce que Jésus avait enseigné, ce que Jésus avait dit? Eh bien, je pense que c'était clairement à cause de leurs attentes erronées. Ils ne cherchaient pas au bon endroit. Ils ne cherchaient pas au bon endroit. Ils s'attendaient que Jésus les délivrerait physiquement et non pas spirituellement. Et Jésus leur fait deux reproches. Au verset 25, ou un reproche en deux temps, et là on voit la deuxième cause de leur déception, c'est leur ignorance. Déçus à cause de leur ignorance. C'est ce qu'on voit au début du verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence! » Donc les deux disciples avaient entendu prêcher Jésus. Ils avaient vu tous les miracles qu'il avait fait, tous les événements. Mais Jésus ici les qualifie de « sans intelligence ». Bon, quelqu'un qui est sans intelligence, on dirait que c'est quelqu'un qui est stupide. Littéralement, il y a deux traductions qui nous aident à comprendre un petit peu. « Parole de vie » nous dit « vous ne comprenez rien » ou « la parole vivante, vous n'avez pas compris grand-chose ». C'est un petit peu l'idée. D'ailleurs, ces termes-là qui sont utilisés, c'est ce que Jésus dit. Donc, Jésus aurait pu s'attendre qu'avec tous les éléments qu'avaient ses disciples, il aurait dû comprendre. Il aurait dû comprendre, mais maintenant, il y avait un problème. Il était dur de comprendre. C'est un petit peu comme, je pourrais prendre l'idée d'un processeur. Ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, là, moi, quand je travaillais chez IBM, on fabriquait ce genre de puces. Là. Ça, c'est un processeur Intel. Vous savez, quand vous achetez un ordinateur, ils disent ça, c'est un i3, un i5, un i7, là, un i9 même. Bien, c'est ça, un processeur, ça ressemble à ça. En dessous, il y a un paquet de connecteurs ici. Quand je travaillais à l'usine, on fabriquait ce genre de pièces-là. On recevait les puces, le cœur finalement, et on l'encapsulait. On en faisait une pièce comme ça. Là. On installait toutes les pins dessus et tout ça. Donc, je connais un petit peu le principe. Mais ce que ça fait, dans un ordinateur, un processeur, ça, en français, ça processe. Je ne sais pas c'est quoi le terme exact en français, mais je sais que le mot processeur existe. Merci beaucoup. J'avais oublié. Donc, dans un ordinateur, on a plein d'informations. OK? Sous différentes formes, on a des informations et le processeur va la rediriger à l'endroit où il y a besoin, soit pour la stocker ou pour la transformer. Exemple, si on a un document qu'on va imprimer, il va changer le code finalement pour l'envoyer à l'imprimante pour que l'imprimante puisse nous fournir quelque chose qui va être lisible, intelligible pour nous autres. Donc, c'est un petit peu ça que Jésus est en train de dire aux disciples. Dans le fond, ils ont tous les éléments, mais ils n'ont pas fait ce travail-là que le processeur aurait fait normalement pour arriver à la bonne conclusion. Ils n'ont pas interprété tous ces détails-là qu'ils avaient eus pour comprendre la situation. Donc, ils ont déjà tous les éléments pour réaliser que Jésus, c'était le plan qui était déjà dans les Écritures depuis bien longtemps. Et comme on l'a dit, leur principal obstacle, c'était leurs attentes. Ils cherchaient Jésus au mauvais endroit. Un peu comme notre couple de tout à l'heure. Hein? La dame, le mari bien intentionné, avait fait exactement, même au-delà de tout ce qu'elle s'attendait, mais elle cherchait son cadeau au mauvais endroit. Parce que ses attentes étaient d'avoir une voiture sport, elle. Pourtant, le mari avait bien répondu à ses attentes, mais parce qu'elle cherchait dans le garage, elle n'a pas trouvé son beau cadeau. Mais c'est un petit peu la même chose ici. Les disciples ne cherchaient pas au bon endroit. Un peu, leur terme, c'est, bon, le Messie devait venir établir son royaume ici-bas, mais maintenant qu'il est mort, depuis 3 jours, bien, nos espoirs sont tous morts. On est vraiment déçus, c'est ce qu'on s'attendait. Alors, encore une fois, Jésus leur explique tout ce que la parole disait à propos de lui, en commençant par le Pentateuque, tous les livres prophétiques. Donc, il fait un survol et leur dit finalement, écoutez, c'est clairement annoncé. Hein, avec tout ce que la parole dit, voilà ce que les Écritures nous enseignent. Et cherchez le Messie au bon endroit. Hein? Vous allez reconnaître que c'est moi, finalement, mais il ne le dit pas aussi clairement parce que ce n'est pas identifié tout de suite. Mais c'est un peu ça qu'il leur disait. Il dit, regardez au bon endroit si vous voulez trouver le Messie. Vous n'allez pas être déçu dans vos attentes. Ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que les disciples, à ce moment-là, c'est avant la Pentecôte. Donc, ils n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre et pour pouvoir, justement, à travers les Écritures, voir ce qui était annoncé. Donc, Jésus a dû jouer ce rôle-là, encore une fois, et faire le travail de l'Esprit, finalement, pour les amener à mettre toutes ces choses-là ensemble, faire des liens. Mais, non seulement leurs attentes étaient irréalistes, leur compréhension bien limitée, mais la troisième cause nous dit que leur foi était bien faible aussi, à cause de leur manque de foi. C'est la deuxième partie du verset 25. « Aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. » Donc, non seulement ils sont durs de comprendre, mais en plus de ça, ça lui prend du temps. Du temps pour arriver à croire. Donc, il avait entendu les femmes annoncer que Jésus était Jésus n'était plus dans le tombeau. Il y avait même eu Pierre qui avait confirmé qu'effectivement, Jésus n'était plus là. Ce n'était pas encore suffisant pour croire. Et le texte nous dit qu'en plus, ce n'est pas juste qu'ils n'ont pas cru ce que les personnes leur ont dit, mais ils n'ont pas cru ce que les prophètes, les Écritures, dont les textes, comme on a vu tout à l'heure, disaient. Donc, ce n'est pas juste les faits qu'ils n'ont pas cru, mais en plus, c'est dans les prophéties des Écritures. Il faut réaliser aussi qu'il y avait une croyance parmi les Juifs qu'un mort pouvait ressusciter, mais pas après 3 jours, parce qu'ils croyaient qu'après 3 jours, l'âme avait quitté le corps. Donc, même si un médecin réussissait à réanimer la personne, c'est impossible parce que son âme n'était plus là. Donc, ça aussi, je pense que ça a dû jouer dans le fait que les disciples ne croyaient pas parce qu'il y avait cette croyance-là. Maintenant, ça fait 3 jours, là, hein, le deadline est passé. Hein, dans le Back to the Future, le point de non-retour, la tour, là, je pense qu'il y avait de l'eau dedans là, qui, quand tu arrives là, tu ne peux plus retourner de bord, là, il est trop tard. Mais c'est un petit peu ça pour eux. 3 jours, il est trop tard, Jésus ne pouvait pas ressusciter. Pourtant, quand on regarde tout ce que Jésus a fait dans son ministère, entre autres, on voit qu'il a ressuscité Lazare. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Lazare, quand il a ressuscité, ça faisait 4 jours. Hein, sa sœur a dit... Elle dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Donc, Jésus avait même démontré que plus que 3 jours, même après 4 jours, Dieu pouvait ressusciter un mort et que le mort vivait avec eux. Là. Il n'était pas différent, il avait son âme. Mais c'est sûr que là, peut-être qu'il disait, « Ouais, il a ressuscité un mort, mais là, c'est lui-même. Il est mort, il ne peut plus se ressusciter lui-même. » Bon, on ne comprend pas trop ce qui se passait dans leur tête, mais il n'y avait pas de foi qu'il devait faire ici. Il n'y avait pas de foi et croire que Dieu pourrait faire un miracle, même si ça faisait 3 jours qu'il était décédé. Alors Jésus, pour qu'il croit, c'est un petit peu ce qu'il disait, « Oui, je sais que les femmes l'ont dit, je sais que Pierre l'a dit, je sais que la Bible le dit, mais il faudrait que je le voie pour le croire. » Alors un petit peu plus loin, après notre texte, au verset 31, on voit que Jésus là, s'est montré clairement à eux. Là, ils l'ont reconnu. Alors là, ils ont cru en lui. Donc, voilà les trois causes de leur déception. Qu'il y avait des attentes erronées, qu'il y avait un problème avec leur intelligence, qu'ils n'étaient pas capables de processer les informations, et il y avait un manque de foi aussi. Trois causes qui font que leur cœur était déçu. Pas à cause de ce que Jésus avait mal fait, mais à cause de ces trois raisons ici. Et ça, même à l'endroit de Jésus, qui était déçu, c'est quand même spécial. Alors, pensez-vous que nous, dans nos relations, que ce soit avec notre épouse, que ce soit avec nos confrères de travail, avec nos voisins, hein, nos familles, pensez-vous que ça va être différent? Pensez-vous qu'il n'arrivera pas des moments, ou même qu'il soit fautif ou pas, mais qu'on va être déçu? Et quelque chose que je trouve important de faire attention, c'est de ne pas prendre un texte des Écritures et s'en servir comme prétexte, qu'on dit. Hein? Dire, OK, comme les apôtres, faisons ci ou faisons pas ça. Mais ce que je vois par contre, c'est qu'on voit des principes. Il y a 3 principes ici qui, je le crois, vont s'appliquer dans la plupart de nos situations. Il y a 3 principes qui nous montrent un peu comment est notre cœur, comment le cœur humain est, et j'aimerais qu'on en tire trois solutions, finalement, dans les situations où on est déçu. Donc, Premièrement, bon, l'histoire des attentes erronées, quand on arrive devant une déception, peut-être la première question qu'on pourrait se demander, est-ce que mes attentes étaient réalistes? Et ça, je pense que c'est bien important de se poser cette question-là lorsqu'on vit une déception. Évidemment, l'Esprit va nous aider. Étant donné qu'on a l'Esprit de Dieu aujourd'hui, on a vu ça dans notre étude de Romains, mais l'Esprit va nous aider à faire la part des choses et à répondre à cette question-là. Est-ce que mes attentes sont réalistes? Et comme les deux disciples, d'ailleurs, auraient eu intérêt à se le demander ici. Par exemple, est-ce que c'était réaliste de s'attendre que mon épouse, à chaque fois que je rentre du travail, m'attende, me fasse un bon massage, là, puis, hein, est-ce que c'était réaliste? Bon, peut-être c'était dans mes attentes en me mariant, mais est-ce que ça faisait partie de l'entente initiale? Bien, probablement pas. Donc, si je suis déçu parce que mon épouse ne fait pas de massage à tous les jours, bien, peut-être que je devrais me demander est-ce que c'était réaliste comme attente. Trop souvent, dans nos engagements, et puis pas juste dans le mariage, dans toutes nos situations, nos attentes dépassent nos engagements. On s'attend à beaucoup de la part des autres, mais on espère qu'eux n'auront aucune attente à notre endroit, à notre égard. Mais voilà que le mariage, ce n'est pas une relation à sens unique. Le travail, ce n'est pas une relation à sens unique non plus. Les relations entre voisins, ce n'est pas à sens unique. Hein, c'est toujours du donnant-donnant. La communion fraternelle dans l'Église non plus. Ce n'est pas à sens unique. Il faut réaliser que chacun des êtres humains possède des limites, des capacités, et ces capacités-là sont limitées. Par exemple, votre enfant de 5 ans, si vous vous attendez qu'il va agir comme un adulte, bien, il n'y a pas cette capacité-là. Un enfant de 5 ans n'est pas capable d'avoir les mêmes réactions qu'un adulte. Donc, si vous attendez que votre enfant de 5 ans va agir comme un adulte, vous allez être déçu. Pourquoi? Pas parce que lui ne fait pas ce qu'il devrait faire, parce que vos attentes sont irréalistes. Et dans toutes nos relations, souvent, ça c'est le nœud du problème. Nos attentes ne sont pas réalistes par rapport aux autres. Dans une relation de couple, bien, une femme, ce n'est pas un homme. Et un homme, ce n'est pas une femme. Il va forcément y avoir des différences, c'est un peu ce qu'on a vu hier, et de s'attendre qu'il n'y aura plus ces différences-là, c'est irréaliste de notre part, parce qu'on va toujours rester un homme et une femme. Votre frère non plus, votre sœur qui est à côté de vous autres, n'est pas encore rendu parfait comme notre Seigneur l'est. Personne d'entre nous n'est rendu à la stature parfaite de Christ. Donc, de s'attendre qu'il ne va jamais commettre de péché, qu'il ne va jamais vous décevoir, ce ne sont pas des attentes réaliste. Donc, il faut être conscient qu'un jour ou l'autre, on va être déçu si on a des attentes irréalistes par rapport à nos frères et nos sœurs. Donc, première question, on se demande, est-ce que mes attentes sont réalistes? Deuxièmement, bon, on pourrait dire, utilisons notre intelligence, mais surtout, je dirais, celle que l'Esprit de Dieu va nous communiquer. Hein? L'intelligence que l'Esprit va nous donner pour analyser la situation. Donc, se poser la question, pourquoi est-ce que je suis déçu présentement? Il y a des éléments qui sont devant nous et ça va nous aider à comprendre la raison pour laquelle on est déçu. Ça va nous aider à processer l'information qui est devant nous. Dans certains cas, nos attentes ne sont pas légitimes. Un peu comme dans les exemples qu'on a vus, dans ces situations-là, des fois, on va réaliser que, bon, que ce n'était pas réaliste de ma part de m'attendre à ça, mais on va juste passer la situation sous silence, pas obligé de l'adresser, dire « tu m'as déçu », ben oui, mais la personne n'a rien fait de mal, c'est juste moi qui n'avais pas des attentes réalistes. Donc, on va juste décider de ne pas aller plus loin. Mais dans d'autres cas, où des fois, c'est très important pour nous, cette situation-là, on va pouvoir l'adresser, même si c'était des attentes irréalistes. Puis des fois, on va peut-être pouvoir trouver des terrains d'entente. Exemple, surtout dans un couple, là, quand l'homme et la femme ne réagissent pas pareil, OK, j'ai été déçu dans cette situation-là, je comprends que ce n'était pas réaliste de ma part, mais est-ce qu'on peut trouver une façon un équilibre entre nous deux pour pas qu'on vive constamment ces déceptions-là. Donc, s'asseoir puis négocier un terrain d'entente ensemble. Trouver des moyens, finalement, pour que nos différences ou nos imperfections minimisent les conflits puis les déceptions entre nous. Un exemple de ça, puis je suis pas mal certain que dans toutes les couples, c'est pas mal semblable. Si vous parlez à Suzy, vous lui demandez, c'est quoi sa soirée de repos parfaite? Et moi, c'est quoi ma soirée de repos idéale? Bien, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Donc, il est fort probable que si on dit on prend une soirée de repos ensemble, il y en a un qui va être déçu, puis l'autre va être plus satisfait, ou les deux vont être déçus, c'est des fois. Donc, c'est important de discuter pour trouver ces terrains d'entente-là, qui va pouvoir correspondre aux deux, et les deux se reposent, exemple, dans la même soirée, dans notre exemple ici. Un autre exemple que je pourrais vous donner, moi, pour moi et Suzy, nos vacances. Ça, je suis pas mal sûr que la plupart aussi vivent ça aussi. Moi, une période de vacances, pour moi, là, c'est de décrocher complètement, d'aller visiter des lieux. C'est pas de m'asseoir dans une chaise sur le bord de la plage, là, mais peut-être je vais aller voir la plage, ça sera déjà une belle chose à aller voir, puis peut-être une journée, là, une demi-journée, mais aller visiter des lieux historiques, des musées, aller visiter des attractions touristiques. Moi, c'est ce que j'aime dans des vacances. Suzy, ce qu'elle aime, c'est aller voir du monde, aller voir des gens. Si on dit, on va aller voir ta cousine à Edmonton, là, quand on a fait notre voyage au BC, on avait comme objectif d'aller visiter sa cousine à Edmonton. Alors là, c'était correct, on est allé passer une demi-journée avec sa cousine. Après ça, on est allé visiter des amis, ça c'était déjà planifié à Vancouver. Là Suzy était contente. Dans ses vacances, c'était réussi, elle avait eu du temps avec des personnes, on est allé visiter des églises là-bas, on a eu des bons temps de communion fraternelle avec eux. Voyez-vous, quand on planifie des vacances, on doit tenir compte de nos priorités les deux. Si on réussit à mettre les deux dans nos vacances, là, les deux, on a passé de belles vacances, on est satisfait de nos vacances, mais ça l'a demandé qu'on s'arrête, hein, qu'on réfléchisse, qu'on utilise notre intelligence, justement, pour trouver ce terrain d'entente-là. Ça, c'est dans le cas où nos attentes ne sont pas nécessairement légitimes, puis qu'on voit qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Mais dans certains cas, nos attentes étaient légitimes. Mais elles n'ont pas été rencontrées. Par exemple, si votre voisin installe sa remise et qui empiète sur votre terrain pour installer sa remise, là, c'est légitime. C'est votre terrain à vous. Les papiers sont bien clairs. Habituellement, même les bornes sont déjà mis là. Puis la personne n'a pas bien vérifié. Puis un pied et demi sur votre terrain. Là, vous avez une raison valable d'être déçu. Donc, c'est important de s'asseoir, d'en discuter ensemble, de mettre les cartes sur table, de dire, regarde, l'entente, sur le notaire, c'est clair, ton terrain arrête là, ta remise est là, il faut trouver une solution. Là. Tu ne peux pas être chez nous avec ta remise. On est d'accord, il faut trouver, même la municipalité aurait dû intervenir avant. Je sais qu'habituellement, ils vérifient ça. Là. Tu dois être à Chrysler, c'est 4 pieds de la limite, je crois. Là. Mais dépendamment des endroits, c'est différent. Mais effectivement, ça serait un cas où une déception serait légitime. Donc, on peut trouver, des fois on va pouvoir régler, comme là, déplacer la remise, ça va être réglé. D'autres fois, on va falloir trouver des terrains d'entente. Mais dans tous les cas, je pense que dans ces situations-là, il va falloir mettre en pratique le texte qu'on a vu hier hein, dans Matthieu et pardonner. Pardonner à notre voisin s'il a mal agi. Il était peut-être bien intentionné, mais il n'a pas fait assez attention ou il était mal intentionné, puis on va devoir passer par le pardon. Donc, je dois utiliser mon intelligence pour comprendre et résoudre la situation. Mais mon intelligence ne suffira pas souvent dans ces situations-là. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a un outil qui est infaillible. C'est la troisième situation, ce sera de faire confiance à Dieu dans ces situations-là. La prière fait toute la différence du monde. Dans les situations de déception. Sans la prière, je vais faire mon possible. Mais avec la prière, Dieu peut faire l'impossible. Et ça, c'est vraiment important de le considérer. Puis, soyez rassurés que vous n'abuserez jamais de votre privilège de la prière, de votre privilège de cette ligne directe avec Dieu. Et vous savez quoi? Si vous placez votre confiance en Dieu dans ces situations-là, et que vous priez, que vous lui demandez, mais que vous cherchez au bon endroit la réponse à votre prière, vous ne serez jamais déçu. Vous ne serez jamais déçu par Dieu. Si vous cherchez au bon endroit, évidemment, et non pas comme les disciples qui s'attendaient, qui cherchaient le royaume ici-bas. Assurez-vous donc que vos attentes sont en accord avec le plan de Dieu, puis observez la réponse que Dieu va pourvoir. Parce qu'on a des promesses dans les Écritures, comme celle de Marc, hein, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est une promesse qui ne nous décevra jamais. Et encore, regardons la réponse au bon endroit. Donc, dans nos situations de conflit, mettons en pratique peut-être ce qu'on a appris sur notre cœur, sur le mauvais état de notre cœur, et soyons vigilants, prenons ça au sérieux. On ne réalise jamais assez le côté spirituel dans des situations qui, des fois, semblent banales. Hein, juste l'histoire de la fameuse bain de toilette. Là. Tous les hommes et les femmes ont la même discussion à un moment donné, mais on n'est pas pareil. On est différent, ça va toujours rester. Donc, même un sujet qui, des fois, semble banal, prenons-le au sérieux. Réglons-le, trouvons le terrain d'entente, la façon que les deux vont pouvoir fonctionner sans à chaque fois « encore hein? ». Donc, allons mettre ça devant le Seigneur. Bien oui, Seigneur Dieu, on veut te remercier encore une fois pour tes Écritures. Merci parce qu'à travers elles, on peut apprendre à se connaître, Seigneur. Savoir comment notre cœur parfois peut être tortueux, comment on peut être imparfait. Et Seigneur Dieu, certainement, on ne veut pas prendre à la légère toutes ces déceptions qu'on peut vivre, que ce soit dans le couple, que ce soit dans nos relations de travail, nos voisinages, notre parenté, Seigneur Dieu. On veut remettre ça en tes mains, en sachant que tu peux faire des beaux miracles, Seigneur, avec ces gâchis-là que nous, on a été capables de faire. Seigneur Dieu, certainement, on te demande qu'on puisse, en tant que tes enfants, appliquer aussi le pardon auquel tu nous appelles, qu'on puisse pardonner s'il le faut 70 fois 7 fois. Mais Seigneur, qu'on se rappelle comment toi tu nous as pardonné. Et Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir là où nos attentes ne sont pas réalistes. Seigneur, qu'on puisse voir, Seigneur, aussi avec l'intelligence de ton esprit, la cause de nos déceptions, et certainement qu'on puisse te faire confiance à toi. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen.